Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Vivante Église, c'est le magazine de la vie chrétienne dans votre région. Et comme tous les jours, on est ensemble pendant une heure. Cette année, l'association Foi et Lumière fête ses 51 ans. 50 ans, c'était l'année dernière. Les équipes sont animées par une philosophie, faire jaillir un regard de tendresse d'une personne atteinte d'un handicap mental. Et pour parler de cette association et des actions qu'ils proposent sur notre région, j'ai le plaisir de recevoir, alors beaucoup de monde hein, autour de la table, Floriane de Kidza, maman d'une petite fille de 10 mois atteinte de trisomie 21. Bonjour Floriane.
Bonjour.
Juste à côté de vous, René et Michel Brasil, vous êtes membre de cette communauté Foi et Lumière et plus particulièrement de celle de Toulouse qui s'appelle la communauté de la Violette. Bonjour à vous.
Bonjour.
Juste à côté de vous, il y a Blandine Véron-Basile, vous êtes aussi membre de la communauté de la Violette de cette association Foi et Lumière à Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Juste à côté de vous, il y a Mathilde qui a 11 ans.
9 ans.
9 ans, je me suis trompé, voilà, mais elle fait plus grande que son âge. Et j'ai aussi à côté de moi Élie Brasil, qui est le fils de René Michel. Bonjour Élie.
Bonjour.
Et juste à côté de moi, et ce sera terminé, Pauline de Mancier, qui est membre de l'association aussi Foi Lumière. Bonjour à vous Pauline.
Bonjour.
Merci déjà tous d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes 6 autour de la table.
Avec
pour
plaisir.
Débuter cette émission, j'aimerais que vous me présentiez l'association Foi et Lumière. Elle est née il y a, on l'a dit, 51 ans à Lourdes. Qui en est le fondateur de cette association Foi et Lumière?
Alors, elle est née à Lourdes. En fait, elle est née d'un désir de parents qui avaient envie d'emmener leurs deux enfants qui étaient porteurs de handicap en pèlerinage à Lourdes. Et à cette époque-là, encore beaucoup plus que maintenant, le handicap n'était pas accepté et ils se sont retrouvés un peu devant des portes closes à Lourdes. Et ses parents étaient assez dans la détresse. Voilà, ils avaient envie de pouvoir vivre leur foi pleinement. Et ils sont allés voir Jean Vanier et Marie-Hélène Mathieu en leur disant « qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut faire ?» Et en fait, ça a été le point de départ de l'organisation d'un grand pèlerinage, donc maintenant il y a 51 ans, et qui est devenu un pèlerinage assez rapidement international. Et ça a été une grande fête, ça a été même pour Lourdes en fait l'occasion d'une découverte de ce que ça peut être, le handicap, et notamment le handicap mental.
Ce pèlerinage a été préparé pendant 2 ans. Donc, dans toute la France et aussi en Italie, et je ne sais plus encore un autre pays, où les gens se sont réunis, des personnes avec handicap, avec des parents, des amis, et ils ont préparé 2 ans. Mais à Lourdes, les gens avaient très peur.
Oui, en fait, l'idée, c'était de dire, plutôt que d'inviter tout le monde et qu'on se retrouve tous à Lourdes sans se connaître, créer des petites communautés, rencontrez-vous, dans ces petites communautés, invitez les personnes porteurs de handicap, leurs parents, des amis qui sont juste là pour être ensemble et faites connaissance. Et comme ça, quand tout le monde arrivera à Lourdes, vous ne serez pas perdus dans la masse. Voilà. Et donc, pendant 2 ans, ces petites communautés se sont rencontrées, ont fait connaissance, etc. Et en fait, ce pèlerinage a été une grande fête, mais vraiment un truc hyper joyeux. Et donc, à l'issue de ce pèlerinage, les personnes ont dit comment on peut faire pour continuer. Et l'invitation de Marie-Hélène Mathieu et Jean Vanier, ça a été de dire continuez, rencontrez-vous. Et comme ça sont nées les communautés de rencontre, hein, puisque on n'est pas des communautés de vie. On emploie ce mot communauté, mais en fait, on se rencontre une fois par mois. Et voilà, dans toutes les communautés Foi et Lumière, maintenant il y en a partout dans le monde.
186 pays, on dit.
186 pays maintenant, c'est énorme. On retrouve les personnes avec handicap. Alors, quelquefois, c'est l'handicap mental, quelquefois, c'est handicap mental et physique, quelquefois, c'est juste un handicap physique. Voilà, ça dépend. Et puis, leurs parents, parce que c'est un chemin particulier. Et puis, des amis, des personnes comme vous et moi qui ont envie de vivre ça, de partager ça. Et c'est ça, une communauté Foi et Lumière.
Donc, je dirais que le fondateur, c'est l'Esprit Saint.
Donc vous le disiez, le principe de ces communautés, il y a le pèlerinage, le prochain a lieu en plus dans quelques jours, on en parlera tout à l'heure, mais le principe c'est d'organiser des rencontres d'amitié, de partage et de prière par groupe de 15 à 40 personnes, et la particularité c'est que les enfants, vous le disiez, les adolescents, même les adultes ont tous un handicap mental. J'aimerais tourner vers vous, Élie, vous avez 33 ans, vous êtes atteint de trisomie 21, c'est important ces rencontres avec des personnes qui sont porteurs du même handicap que vous?
Il n'y a pas que moi, mais il y a d'autres aussi, d'autres personnes, comme notre cher Ulrich, il est aveugle aussi. Donc, je veux parler au nom de lui, parce que c'est important que il a souffert beaucoup, hein, au moins que de chaque communauté, et on doit prier pour lui, que c'est important qu'on sache pourquoi.
Qu'est-ce que vous faites pendant ces rencontres?
Avec ces rencontres, on le voit souvent et on fait quelques ateliers. Que c'est intéressant qu'on fasse une fois par mois et qu'on fasse ensemble pour trouver un thème, de manger, de faire de la météo et tout ça. C'est intéressant, c'est particulier.
Pauline.
La météo, c'est pas la météo qui fait beau, qui fait pas beau. C'est ce qu'on a vécu pendant le mois qui est passé, si c'est bien ou pas bien, si on est content ou pas content du mois.
On sent une vraie lumière dans leurs yeux quand ils parlent de ces ateliers. C'est important de tous se retrouver.
Ben voilà, c'est ça. En fait, la lumière, elle est pour tous, hein, parce que nous, c'est un vrai bonheur aussi de se retrouver tous ensemble. Ce sont des rencontres qui sont très simples. En fait, voilà, c'est ça, c'est être ensemble. C'est pas faire des ateliers, faire si, c'est vraiment être ensemble. Et prendre le temps de dire comment on arrive, comment ça s'est passé le mois pour nous, ce que disait Pauline, c'est notre météo intérieure. Et du coup, on sait un petit peu, il y a des nuages, c'est pas facile. Il y a des vraies joies, voilà. On partage tout et c'est avec ça qu'on va vivre la journée. Généralement, dans la journée, on commence, en tout cas pour nous, on commence par la messe. On se retrouve à la messe. C'est pas toutes les communautés, parce que Foi et Lumière est vraiment ouvert à toute personne.
Aux croyants comme aux non-croyants.
Croyante ou pas croyante. Nous, c'est vraiment, comme dit René, l'Esprit Saint qui a ouvert ce chemin. Donc, c'est embarqué, mais c'est ouvert à tous. Et donc, on partage, on vit ensemble la messe dans une communauté paroissiale. Ça, c'est super important. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a rencontré Floriane et sa famille, ou l'inverse, et l'inverse, en fait, tu nous raconteras. Et ensuite, on partage un repas. On sait que Jésus, lui, il aimait bien partager les repas. Voilà, bah nous, on fait pareil à chaque fois. Et à chaque fois, chacun apporte et c'est des festins tout simples. Et on partage la météo et puis ensuite on vit des temps de jeu, des temps de fête, des temps de parole, de réflexion.
Les mimes, on mime l'évangile très souvent.
Voilà, des chants mimés parce que les personnes avec handicap mental, en fait, sont super joyeuses et aiment ça. Les chants mimés, c'est tout simple et... On est tous, hein, Élie?
Il n'y a pas que moi, mais parce que je vais vous dire qu'il y a un problème de l'organisation. Donc, on le fasse davantage. Ben donc, il y a une chose que je n'ai pas dit à Blandine, que notre foi, la foi nous donne la foi, et que la lumière nous donne la lumière. Donc, ce n'est pas comme, comme l'esprit, hein, parce que nous sommes là, voilà.
Tout est dit, je pense. Voilà, tout est ça. Bien résumé.
Voilà, on a un responsable de communauté. Chez nous, c'est Olivier. Hein, et on a un aumônier.
René, Michel, Brasil, gardez la parole. J'aimerais qu'on parle un peu de ce pèlerinage. Les dates, c'est du 27 au 31 octobre. Donc, c'est dans quelques jours que vous y partirez. Vous serez 3000 de toute la France et toute la Belgique. C'est symbolique, ce lieu de Lourdes, parce que c'est là qu'a été créée l'association Foi et Lumière.
L'association est née à Lourdes. Donc, C'était pas en novembre, c'était pendant la semaine sainte. Ça a commencé le jeudi saint et ça a terminé le dimanche de Pâques. Et justement, à Lourdes, les gens étaient très appréhensifs. Ils, des déficients intellectuels, ils avaient fermé tous les magasins. Mmh. Ils avaient peur. Et ils avaient mis des gendarmes le long du Gave. Ils avaient peur. Mais dès le premier jour, alors... Le pèlerinage avait été préparé, comme cette année aussi, avec un chant qu'on a tous répété, des mimes, etc. Et là, ils avaient préparé un chant de résurrection. Mmh. Amis, chantons notre joie, Dieu est vivant, alléluia. Et dès le jeudi, dès le vendredi saint, tout le monde dans les rues chantait ça. Alors très vite, les magasins ont réouvert leurs portes et ils ont enlevé les gendarmes le long du Gave parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas de problème.
Ils ont fait sauter leurs barrières psychologiques,
voilà,
et physiques.
Exactement. Et puis, pendant les pèlerinages, on est tous en binôme, mmh, c'est-à-dire une personne avec déficience avec une personne ordinaire, et on se déplace ensemble. Hein. Alors, tout a été préparé au niveau médical, etc. Mmh. Et voilà, donc...
Et quel est le programme? Alors, moi, je l'ai sous les yeux, mais voilà, partagez-le aux auditeurs.
Voilà, alors, moi, tu l'as, là. Oui.
Donc, ça commence le jeudi 27 octobre, jeudi, donc soir. C'est dans 2-3 jours.
Voilà, on a rendez-vous dans les hôtels. Mmh. Hein. Tout a été organisé, donc on sait dans quel hôtel on va. Et là, il y a des pièces qui ont été réservées, parce que dès le premier soir, on fait le lavement des pieds. C'est quelque chose qui est très fréquent à Foi et Lumière, c'est-à-dire on se retrouve en groupe, en général une dizaine ou une quinzaine, et on a un bassin avec de l'eau, et puis chacun son tour, on lave les pieds de son voisin, mmh, ou au moins un pied. Hein, et ensuite, celui à qui on a lavé les pieds, c'est lui qui lave les pieds de son voisin. Et ensuite, on lui impose les mains pour demander au Seigneur d'être présent.
Là, j'ai le programme sous les yeux. Il y aura aussi un chemin de croix, des ateliers, des conférences, des visites, une procession au flambeau. C'est bien diversifié, hein.
Oui, oui, ça a été préparé par tous. Il y a des ateliers de toutes sortes. Ça peut être la rencontre avec un évêque pour discuter, découvrir les signes de Lourdes. Nous, la Violette, on prépare une chasse au trésor qu'on va animer deux fois. Voilà, il y a plein de propositions. Il y a des ateliers, des conférences aussi.
Élie, vous êtes contente d'y aller à Lourdes?
J'étais plusieurs fois à Lourdes, mmh, parce que j'étais quatre fois à Lourdes, mmh, parce que ça me plaît, que j'ai amené un copain avec moi, et on veut rester un moment là-bas pour, pas pour faire les activités, les ateliers, nous on préfère c'est qu'une visite, mmh, et on préfère tout un programme. Et aussi la bannière.
Aussi, il ne faut pas oublier.
Moi, Pauline. On m'a dit, il faudrait que tu achètes un appartement là-bas.
Ça vous inspire, Lourdes, alors?
Mais alors, vous savez combien de fois je suis allée?
Ben non, vous allez nous le dire.
Mais au moins deux fois par an.
Ah oui, quand même. Donc c'est un rendez-vous régulier. C'est votre deuxième maison, Lourdes.
Mais oui.
J'aimerais me tourner vers vous. On ne vous a pas encore entendu, Floriane Kiza. Vous êtes maman d'une petite fille de 10 mois. C'est son, en plus, elle fête ses 10 mois demain, porteuse de trisomie 21. On l'a un petit peu entendu tout à l'heure. Vous avez découvert l'association Foi et Lumière à la sortie d'une messe.
Oui, c'est ça. Alors, j'ai pas découvert l'association à la sortie d'une messe parce que je savais, avec mon mari, on savait qu'elle existait. Mais c'est effectivement par le biais de notre paroisse qu'on a rencontré la communauté Foi et Lumière, puisque nous savions qu'une fois par mois, la communauté se retrouvait sur la paroisse. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est ce qui s'y faisait. Et donc voilà, donc c'était une présence qui était là, mais qui était un peu abstraite pour nous, très honnêtement. Hein. Et puis, Faustine est arrivée. Voilà, notre petite fille est arrivée. Et l'accueil de Faustine a suscité rapidement en nous une envie de rencontrer et d'échanger avec des personnes qui vivaient la différence, qui étaient concernées par une situation de handicap. Et donc là, nous nous sommes souvenus qu'on avait cette communauté tout proche de nous. Et donc, effectivement, à la sortie d'une messe, la communauté vendait des choses. Il y avait une vente, en fait, de la communauté. Moi, j'étais très heureuse de leur dire qu'on venait d'accueillir Faustine. Je crois qu'elle devait avoir 4 mois, quelque chose comme ça. Voilà, notre Faustine, qui est donc porteuse d'une trisomie 21. Et ça a été, voilà, le premier pas vers la communauté. Et ensuite, nous avons eu l'occasion de vivre avec elle une journée entière de rencontres.
Pour vous, c'était vraiment important de rejoindre cette communauté Foi et Lumière ?
C'était oui, parce que c'était une occasion de parce que ça ouvre quelque chose en nous d'accueillir un enfant différent. Mmh. Et rapidement, avec mon mari, on a senti en nous ce désir d'enrichir notre regard et de l'élargir surtout par rapport aux personnes qui portent une particularité, une différence. Parce que jusque-là, enfin, mon mari était très très éloigné hein, du handicap. Il l'avait très peu côtoyé, voire jamais. Moi, un peu plus. Mais dans notre cas, c'était pas suffisant. Enfin, ça nous permettait pas vraiment de rencontrer. Et c'est vrai que cette première journée de rencontre, là, à l'issue de cette journée, quand on est rentré à la maison, on a vraiment eu le sentiment qu'on avait rencontré donc des personnes avec leur situation de handicap, mais surtout qu'on les avait rencontrées au-delà. Et qu'au fur et à mesure des échanges et de la journée, on rencontre la personne. Et ça, c'est quelque chose qui nourrit, qui grandit véritablement. Une porte s'ouvre, en fait.
Ouais, c'est très, enfin, je suis très touchée et c'est vraiment ça qui est important en fait, c'est la rencontre de la personne.
C'est ce que viennent chercher les personnes qui viennent à Foi et Lumière, c'est la rencontre de l'autre.
C'est la rencontre parce que en fait, on n'est pas handicapé ou pas handicapé ou c'est quoi en fait le handicap, c'est une différence, c'est juste une différence et on a tous nos propres handicaps. Un handicap, c'est une fragilité. On a tous des fragilités. Et donc, ce que ça ouvre, moi, j'ai bien aimé, ça ouvre à la différence. J'ai bien aimé ce que tu as dit, Floriane, parce que ça ouvre quelque chose en nous d'accueillir la différence, mais quelle qu'elle soit, en fait, que ce soit du handicap, mais ça peut être une différence de point de vue, ça peut être une différence de culture, ça peut être, voilà. La différence, à chaque fois, nous ouvre quelque chose en nous. C'est une ouverture d'esprit, c'est une ouverture de cœur, voilà, et Foi et Lumière, c'est des je parlais d'être tout à l'heure, c'est ça, ce qui importe, c'est la rencontre de qui on est, de qui est l'autre, et en fait, ça nous invite...
De se connaître aussi soi-même.
Et voilà, c'est ça, et d'arriver exactement tel qu'on est, on tombe les masques en milieu dit ordinaire ou dit normal. Beaucoup de personnes vivent avec des masques et là on est en vérité, on arrive tout simplement, voilà, on est avec qui on est et c'est comme ça qu'on se rencontre et c'est pour ça que c'est si joyeux et si fort.
Je vous propose oui, Élie.
Oui. Il n'y a pas que ça que j'ai entendu avec le mot foi et lumière, mais en effet que cette petite Justine
Faustine,
voilà, pardon. J'y pensais que de cette petite, parce que il est très humide comme moi, mais moi je veux, c'est par le regard, parce que moi je travaille pour la trisomie et donc moi c'est mon rôle que je fasse pour toutes les personnes handicapées. Ça c'est mon rôle à moi et que j'aime beaucoup travailler avec eux. Donc c'est pas la peine d'en parler avec Foi et Lumière. Pardon, excuse-moi.
Élie veut faire changer le regard des gens sur la trisomie.
Et on sent que ça lui tient très à cœur. C'est vraiment poser un regard de tendresse sur ces personnes. C'est le bon mot, la tendresse. Et faire jaillir la lumière en eux.
Ben, en fait, la lumière, elle est en eux.
Elle est déjà en eux.
On n'a rien à faire jaillir. Mmh. En fait, c'est plutôt accueillir la lumière. Et c'est eux qui nous ouvrent à la tendresse. Hein. C'est vraiment... c'est pas dans un sens. C'est pour ça que la rencontre, c'est ça qui est au cœur de nos rencontres de Foi et Lumière. Et la lumière, ils la font jaillir en nous. Et la tendresse aussi. Voilà, ça circule. Hein. C'est en tout cas moi, c'est ça que ça a déplacé entre peut-être chez moi
Ça fait une vingtaine d'années que je suis à Foi et Lumière. Peut-être au début, j'y allais pour rendre service ou quelque chose comme ça. Et ben en fait, ça retourne comme une crêpe. Les personnes qui nous prennent exactement telles qu'on est et qui nous invitent à les prendre exactement telles qu'elles sont, et d'être attentif à ça, de ne pas vouloir les faire aller dans un sens alors que, qu'elles n'ont pas envie, par exemple. Voilà, c'est ça qui a été tellement, tellement fort. Et c'est ça qu'elles ont à nous apporter, à notre monde. Mmh. C'est ça que dit Ellie, en fait.
Que non, c'est pas ça que j'ai dit. Parce que de toutes les personnes qui ont un handicap, il faut travailler. Travailler, améliorer.
Oui, il faut qu'elles soient intégrées dans la société, c'est ça.
Oui, c'est ça que j'ai dit. Mmh. Et il faut rester un moment avec nous, avec la trisomie. Mmh. Mais il n'y a pas que ça. Mais s'il veut venir avec nous à la trisomie, c'est bien en accueillant.
En tout cas, vous acceptez comme vous êtes et intégrer les personnes atteintes de trisomie 21 notamment dans la société. Vous voyez, l'heure passe très vite, il est déjà 9h24. Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale, on revient dans quelques instants. On écoute « Reste à mes côtés » d'Olivier Choua.
Chaque jour après le temps, crois-tu qu'un jour tout finira par s'arrêter pour un retour à l'essentiel? À oublier que l'amour peut exister. J'ai lu dans les yeux de l'opprimé l'indifférence de notre société. séparera.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence et je suis toujours en présence des membres de l'association Foi et Lumière, Floriane de Kidza, maman d'une petite Faustine de 10 mois atteinte de trisomie 21, René Michel Brasil, membre de l'association Foi et Lumière qui est venu avec son fils atteint de trisomie 21, Élie, juste à côté, je vais y arriver, il y a beaucoup de monde, Blandine Véron-Basile qui est venue avec sa petite fille Mathilde qui a 9 ans et Pauline de Mancier, vous aussi vous êtes atteint d'un handicap mental. Je vous qu'on aborde visuel, c'est ça, je me suis trompé, excusez-moi, visuel. Dans cette deuxième partie d'émission, je voulais aborder la question de vivre avec un enfant handicapé tout en gardant la foi. Vaste question. La première étape, j'imagine que c'est le temps de l'annonce. Comment vous l'avez vécu, Floriane de Kidza, je le rappelle, maman d'une petite Faustine de 10 mois?
Alors, il n'y a pas eu d'annonce à proprement parler parce que à la première seconde où j'ai vu ma fille, j'ai compris qu'elle était particulière. Mmh. Voilà. Donc, j'avais eu l'occasion de côtoyer dans certains contextes des personnes concernées par la trisomie. Et lorsque j'ai vu Faustine, j'ai eu un doute tout de suite. Donc, si vous voulez, le diagnostic, il est tombé 11 jours après, mais mon mari et moi, nous savions qu'il n'y avait pas de doute. J'avais vraiment une très forte intuition. Ensuite, Alors, même si je m'en doutais, on n'en était pas sûr. Mmh. Et c'est 2 jours plus tard, lorsque nous avons rencontré un médecin en néonatologie qui est habitué de voir des bébés porteurs de trisomie 21, m'a dit « Voilà, madame, j'ai la même intuition que vous. » Là, je me suis dit « Il n'y a plus de doute. Mmh. » Et donc, la question, c'est comment on accueille ça ?
Comment on accueille ça ?
Tout à l'heure, vous demandiez comment fait-on pour garder la foi. Moi, je dirais que la foi, elle se renforce. Enfin, en tout cas, dans notre cas, elle s'est renforcée. C'est-à-dire qu'immédiatement, alors évidemment, il y a un choc. Mais ce choc, il n'a pas tant été... Enfin, je dirais, il a plutôt été lié à une crainte très, très grande qui consistait à se demander comment va-t-on faire dans cette société, dans cet environnement voilà, qui a encore des choses à faire pour accueillir la différence. Et donc, on a eu peur. On a eu peur pour elle, en fait. Mmh. Parce qu'on n'avait jamais côtoyé ça, ni de près, ni de loin, dans notre propre famille. Mais la relation avec Faustine, elle s'est faite immédiatement. Au-delà de sa particularité, c'était un enfant qui était très attendu. Nous étions ouverts à la possibilité d'accueillir un enfant différent. Nous savions que c'était possible. Mais c'est vrai que comme il n'y avait aucun signal d'appel durant les examens médicaux, il y a tout de même ce choc, cette peur. Et je dirais que la foi, elle nous a immédiatement portés parce que je crois que sans la foi, on aurait été longtemps prisonniers de questions qui touchent, je pense, la plupart des futurs parents qui sont, pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous ?
Oui, c'est ça la première question, c'est Seigneur, pourquoi tu m'envoies cette épreuve ?
Tout à fait. C'est injuste, alors qu'au fond, c'est comme ça, c'est la vie, ça arrive, ça fait partie de la vie, sauf qu'on l'oublie quand on n'y est pas confronté. Et donc très vite, ces questions-là, elles ont été évacuées parce que nous avons foi en Dieu et que notre foi nous a permis de nous dire « Non, c'est une grâce, comme tout ce qui nous est envoyé. » Mon mari m'a dit une chose que j'aime beaucoup, il m'a dit très vite « Tu sais, Floriane, c'est un don difficile, mais c'est un don. » Donc voilà, donc on a considéré que c'était une grâce, donc quelque chose qui nous était donné pour un bien. Voilà. Et donc, on a rapidement, nous, fait l'expérience que le Seigneur était avec nous, parce que très vite, la réaction de notre entourage familial a été très positive.
Et c'est important, ça aussi.
Ça, c'est très important, je crois. On n'a pas eu de remarques douloureuses ou blessantes, et on a été étonnés nous-mêmes, parce qu'en fait, on ne sait pas. Même ma propre mère, je ne savais pas ce qu'elle allait me répondre. Immédiatement, elle m'a parlé de grâce aussi. Et ça, c'était très important, surtout que nous, on était dans un moment là où c'était très anxiogène pour nous. On a fait 11 jours de néonatologie avec des successions d'examens assez lourds, en fait, des échographies cardiaques. Il fallait vérifier s'il n'y avait pas de malformation, etc. Très, très anxiogène pour nous. Et donc, l'entourage amical et l'entourage familial a été vraiment très, très ouvert. Et puis, rapidement aussi, on a contacté notre curé, qui lui aussi a joué... voilà, qui a été très très important pour nous parce que il a immédiatement alerté la communauté paroissiale qui s'est mise à prier pour nous. Et de savoir que voilà, que la communauté priait pour nous, voilà, pour nous soutenir dans ce temps d'hospitalisation anxiogène, et ben, on a senti déjà qu'on était porté. On a senti qu'on était porté et on a une immense gratitude donc envers notre entourage amical et familial, mais aussi envers notre communauté paroissiale.
René-Michel Brasil, vous aussi, vous avez été confronté à la même situation. Racontez-nous votre histoire.
Alors, c'est un petit peu différent puisque donc moi, j'avais 45 ans quand il est né. J'avais fait deux fausses couches avant lui. J'avais un premier garçon qui a 5 ans de plus, qui est ordinaire, que j'avais eu à 40 ans. Déjà, les médecins m'avaient proposé la myosynthèse que j'avais refusée. À l'époque, d'ailleurs, c'était très risqué, enfin, hein, de le perdre. La myosynthèse, c'est pas un geste anodin. Et donc, on avait envisagé d'adopter un enfant. On ne voulait pas aller à l'autre bout du monde pour adopter un enfant. On avait fait toutes les démarches. Et on en était au 9e mois des démarches quand j'étais enceinte. Voilà. Et bon, ben, ils m'ont dit, ben, attendez. Attendez la naissance, vous verrez après. Et puis, il s'est trouvé qu'on envisageait plus ou moins d'adopter un enfant trisomique. Et puis, quand il est né, bon, ben, il avait la trisomie. Donc, c'est sûr que là, on n'a plus envisagé une adoption supplémentaire. Mais il a été très bien accueilli. C'est vrai que la gynécologue, elle a dit, ben, finalement, valait mieux que ce soit tombé sur vous, puisque vous étiez prête à accueillir. Ma mère au téléphone m'a dit, ben, tu savais les risques. J'ai dit, oui, je savais les risques, mais tu sais, c'est aussi bien, parce que la trisomie, c'est quand même bien balisé. J'avais beaucoup de renseignements déjà dessus, plutôt que, par exemple, une infirmité motrice cérébrale qui arrive à la naissance et qui peut être qui peut être plus ou moins grave, ou même un enfant jeune qui peut se faire renverser par une voiture et être handicapé à vie. J'ai dit, là, moi, je sais un petit peu où je vais, donc il n'y a pas de problème. Bon, j'ai un tempérament de battante, donc il n'y avait pas de problème. Ben, on a pris à bras le corps, et puis dès 3 semaines, on était à Paris pour voir le professeur Lejeune, voilà. Et puis, bon, tout a suivi après, voilà.
Il faut accepter la différence de son enfant. Ce n'est pas trop compliqué de se dire, il faut que dans mon esprit, je change mes projets de tout ce que j'ai imaginé pour mon enfant, pour m'adapter à son handicap.
Dans mon cas, je l'ai accepté assez facilement. La relation, je pense que c'est peut-être la relation d'amour avec Faustine qui a été immédiate, qui a fait que pour moi c'était naturel. Enfin, je veux dire, comme tout parent qui fait des, je sais pas si le sacrifice est le terme juste, mais enfin, je veux dire, on donne de soi, donc on fait des compromis avec nos projets. Pour nous, ça allait de soi. Et de fait, ça me rend très heureuse d'être auprès d'elle et de l'accompagner. Ça m'apporte beaucoup de joie.
Faut gérer, si je puis dire, le regard extérieur aussi. On parlait de l'importance de la famille, des amis. C'est compliqué parce que la société, elle est pas du tout adaptée et que nombreuses sont les personnes qui ont des a priori sur les personnes avec un handicap mental. Pauline.
Mais dans mon cas, je suis pas née comme ça. Bref, en un petit mois, on voit pas bien. Et j'avais eu un hématome surdural. Il est perdu un œil. Parce que j'ai le nerf optique qui est mort. Et comme je vois que d'un œil, je vois pas le relief. Et en plus, je vois pas. Et je suis épileptique.
C'est compliqué le regard des autres. Vous nous disiez pendant la pause musicale, on va rien cacher aux auditeurs, que vous avez un rythme plus lent que les autres. Il faut le faire comprendre aux autres que vous fonctionnez comme ça.
Oui. Parce que quand je fais des courses, y a des personnes que je connais depuis quelque temps, ils savent, je veux dire, les caissiers ou les caissières, ils savent, va aux caisses automatiques. Pour toi, c'est mieux que les caisses normales. parce que il y a toujours des gens qui passent. Et parce que moi, je fais mes courses avec un sac à dos. Mmh. Alors, il faut que je remplisse mon sac à dos. Et les autres, ils comprennent pas que je vais pas assez vite par rapport aux autres.
Mmh. C'est important d'expliquer.
Et je dis, mais prenez mon handicap.
Élie, j'aimerais me tourner vers vous. C'est compliqué le regard des autres dans la rue ou dans les magasins
Y a pas que
ça. Ça vous passe au-dessus de la tête, j'ai l'impression.
Non, il n'y a pas que ça, mais c'est surtout à notre local. Parce que notre local, c'est 53 rue de Dac. Il y a beaucoup de jeunes, il y a une trentaine ou cinquantaine de jeunes qui sont beaucoup, qui ont au SAMSA et le CESAD. Moi, je ne sais plus. Moi, j'ai quitté la situation. Je ne suis plus adhérent. Je suis bénévole. Et donc, moi, mon rôle à moi, c'est être bénévole. Moi, j'ai envie d'organiser à mon tour, de faire être seul, mais sans amis. Parce que j'ai un ami avec Lucien, c'est compliqué.
Je voudrais dire, pour le regard des autres, quand ils sont petits, je pense que l'attitude du parent implique beaucoup de choses vis-à-vis du regard. Moi, je n'ai jamais eu de remarques désobligeantes. Jamais. Pourquoi ? Je pense parce que je prenais les devants. Je disais, eh ben oui, il a une trisomie 21, mais c'est un enfant comme les autres. Et je me souviens à l'école, parce qu'il a été en classe ordinaire, en maternelle, et même il y a été jusqu'en CE2. Bon, c'était pas toujours facile, hein. Il avait une auxiliaire de vie scolaire à partir du CP. Et alors, même les autres enfants venaient me voir et me disaient « Ah, c'est vrai qu'Élie, il a tel âge, donc il avait 2 ans de plus que les autres. » Je lui ai dit « Oui. Hein, » et je lui ai dit « Il a une trisomie 21. » Mais ça fait qu'il met plus de temps à apprendre, à comprendre, mais il apprend, il comprend, il progresse.
Comme tous les autres enfants.
Voilà. Et les enfants repartaient. Et je disais la même chose aux parents. Ou tout petit, je dis « Voilà, il a une trisomie 21, mais c'est un enfant comme les autres. » il a ses qualités, il a ses défauts, et voilà. Et je n'ai jamais eu de remarques désobligeantes.
Et le regard des enfants, vous me direz si je me trompe, est moins cruel que celui des adultes.
Oui, les enfants, sauf exception.
Pas tous.
Mais la plupart du temps.
La plupart.
Non, la plupart, que je vais vous dire, qu'il n'y a pas que tous les jeunes de trisomie a eu ça, parce qu'il y a pas mal de souffrances de leur maladie, qu'il y a des problèmes des mains, du dos, des pieds et tout ça, que c'est important pour eux aussi.
Oui,
le regard des enfants, généralement, enfin... En maternelle, ça se passe très bien.
Oui.
Le plus difficile, c'est le collège.
Oui, c'est
voilà,
ça.
Comme pour tous les enfants. Voilà. Mais les enfants, une fois qu'on leur a expliqué, ça va. Sauf, c'est vrai, certains enfants qui ont des attitudes difficiles. Alors là, bien sûr, mais bon, qu'ils aient un handicap ou pas, c'est pareil.
Je vous propose qu'on fasse une deuxième petite pause musicale. On revient dans quelques instants. On écoute « Souviens-toi Marie » de la communauté de l'Emmanuel.
Souviens-toi, Marie, du peuple de Dieu.
Présence à foi 100.2. Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec les membres de l'association Foi et Lumière. Je vais redonner leur nom, Blandine Véron-Basile qui est venue avec sa fille Mathilde de 9 ans. Juste à côté d'elle, René-Michel Brasil qui est venu avec son fils Élie qui a 33 ans, qui est atteint de trisomie 21. Juste à côté de moi, à ma gauche, Pauline de Mancier, vous êtes membre aussi de Foi et Lumière avec un handicap visuel. Et juste à côté de vous, Floriane de Kitza, maman d'une petite Faustine de 10 mois, atteinte de trisomie 21.
Excusez-moi, c'est Floriane Kitza, il n'y a pas de particules.
Ah, bah, excusez-moi alors, je me suis trompé. Floriane Kitza, voilà, maman d'une petite fille de 10 mois. Pour cette dernière partie d'émission, j'aimerais qu'on aborde toujours la question de la foi quand on a un enfant atteint de handicap mental. Est-ce que c'est facile de garder la foi, l'espérance face à toutes ces épreuves que la société nous envoie?
Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, chez nous, elle l'a renforcé, hein, chez mon mari et moi. Et les épreuves, en fait, honnêtement, pour l'instant, on les a pas rencontrées. Enfin, il faut peut-être un petit peu de courage au quotidien parce que voilà, parce qu'il y a un petit accompagnement. Ce sont des enfants qui ont un peu plus de besoins, donc il y a une organisation à trouver. Mais Faustine est toute petite, elle a 10 mois. Pour le moment, c'est un bébé qui se développe très bien. Voilà, qui est très en interaction et qui provoque dans notre entourage beaucoup de joie, donc je crois que les épreuves pour l'instant, elles
apparaissent pas, ou en tout cas vous êtes, votre foi est suffisamment ancrée pour ne pas les, pour que ça passe sans.
Oui, je pense, et puis je rejoins René tout à l'heure qui disait que avec son bébé, elle n'avait pas vraiment fait l'expérience d'expérience négative. Et nous, c'est pareil. Et c'est vrai que moi, j'avais quand même anticipé certaines choses parce que j'avais lu des témoignages où les parents vivaient des choses dramatiques, en fait, des remarques. On se demande comment c'est possible. Puis donc, je m'étais un peu préparée, mais de fait, j'ai jamais eu à devoir répondre. Voilà. Et puis, oui, la foi, on. De toute façon, garder la foi, c'est un combat qu'on réitère tous les jours. Enfin, voilà. Et peut-être que l'arrivée de Faustine, je crois pas que l'arrivée de Faustine nous déstabilise tant que ça au niveau de la foi. Au contraire.
Elle vous renforce, comme vous disiez.
Voilà.
Blandine, je vais y arriver. Blandine Véron Basile, je voulais me tourner vers vous. Le message à faire passer de cette association Foi et Lumière et de votre combat, ça serait lequel?
En fait, le message, c'est l'accueil de la différence. Et c'est un enjeu. Notre pape François, qui a reçu une délégation de Foi et Lumière l'année dernière, disait que Foi et Lumière est appelée à être prophète dans notre temps. Voilà, se rencontrer exactement tel qu'on est, s'accueillir exactement tel qu'on est, ça c'est l'accueil de qui on est soi, l'accueil de qui est l'autre, la rencontre exactement tel qu'on est. Je pense que c'est ça le message et la foi et l'espérance de Foi et Lumière. Vivre ensemble, être ensemble exactement tel qu'on est, on est tous différents, en fait. Autant qu'on est autour de la table, on est différents. Donc, c'est ça, l'accueil de... Moi, je dirais ça.
Et puis, je pense aussi, les personnes ont besoin de fidélité. C'est important pour eux. Le groupe représente quelque chose d'important. Chacun se retrouver chaque fois. Et c'est pareil, on demande aux amis de s'engager au moins pour une année. Parce que c'est terrible quand les choses changent.
Et ils ont besoin de repères en plus, j'imagine.
Oui, c'est ça. Et puis, quand moi, ce que j'ai vécu, c'est que les personnes, quand elles rencontrent entièrement, totalement. Elles viennent vers vous et elles vous disent « je t'aime ». Voilà, et ça engage. C'est le petit prince, hein, tu es responsable de ce que tu as apprivoisé. Voilà, il y a quelque chose du lien qui est créé et qui demande, comme dit René, de l'attention, de la présence et l'engagement dans la durée est important, voilà. Mais comme dans l'amitié, en fait, hein, c'est...
Oui, la réflexion de Virginie l'autre jour, « Je n'ai pas d'amis en dehors de Foi et Lumière », elle disait.
Le mot de la fin, ça serait « Venez et voyez ».
Voilà, c'est ça. Oui. Venez et voyez ces communautés. Il y en a 4 communautés sur Toulouse et région toulousaine, mais il y en a beaucoup plus hein, dans le monde. Vous pouvez aller sur le site de Foi et Lumière France, prendre contact soit avec la communauté proche de chez vous, soit dire que vous souhaitez rencontrer quelqu'un de Foi et Lumière et on vous mettra en contact. Vous pouvez aussi aller sur le site du diocèse de Toulouse et vous trouverez des coordonnées de personnes à joindre par téléphone pour voilà. Vous pouvez aussi regarder si dans votre paroisse vous voyez pas une affiche ou un contact. Et puis s'il y en a pas, on peut vous en donner des affiches et des contacts à mettre dans votre paroisse parce que les paroisses sont vraiment le contact aussi privilégié, hein, Floriane. Hein. Voilà.
Si vous êtes loin d'une communauté, vous pouvez aussi en démarrer une et vous aurez toujours une communauté qui viendra vous aider à démarrer.
Voilà, la Foi et Lumière est organisée aussi en province pour pouvoir accompagner ce type de démarrage. Voilà, donc on peut rejoindre, qu'on soit atteint de handicap ou non, on peut venir vivre juste une journée, par exemple, pour découvrir, c'est ça, venez et voyez.
Et Floriane, on finira avec vous.
Si je peux me permettre, j'aurais aimé rappeler que le Seigneur Jésus a tout particulièrement aimé les plus petits d'entre nous et que l'accueil de la différence dans cette mesure a vraiment un sens pour nous chrétiens.
Et on terminera sur cette belle parole. On arrive à la fin de cette émission. Tout de suite, on retrouve l'agenda de l'Église dans votre région.
Église Actualité, Timothée Rouvière.
Bonjour à tous, débutons cette Église Actualité avec la communauté des Béatitudes de Naï qui propose un programme pour le repos du corps et de l'âme qui alternera entre sorties extérieures, activités créatives, sport, temps ludique et temps libre pour respirer, se promener ou encore jouer. L'Eucharistie sera vécue chaque jour avec la communauté ainsi que les temps de repas. Il y aura certains temps de prière également, des laudes, des vêpres. Le début de ce programme pour le repos du corps et de l'âme, c'est lundi 31 octobre à 17h. Ça se termine dimanche 6 novembre à 14h. L'inscription est demandée. Rendez-vous 18 côtes de Saint-Martin 07 66 84 10 83 pour le numéro de téléphone 18 Côte Saint-Martin à Naï, à la communauté des Béatitudes. Si vous voulez envoyer un mail pour plus d'informations, accueil-béatitude-naï@gmail.com, accueil-béatitude-naï@gmail.com. De son côté, le diocèse de Rodez propose la session « Dans toutes les réalités de nos vies, découvrir la joie de l'amour ». C'est un parcours sur 2 ans pour découvrir ensemble le message du pape François dans l'exhortation apostolique « La joie de l'amour », et ce par la lecture et le dialogue, mais également par la simplicité de la rencontre. La session est animée par Vincent Grégoire Delory et Marie Péquer. L'inscription là aussi est demandée et le premier rendez-vous c'est le 2 novembre. Ça se passe en visio. Information au 05 65 68 91 25. 05 65 68 91 25. Ou vous pouvez envoyer un mail à pastofam12@laposte.net. pastofam12@laposte.net. De son côté, le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron organise un pèlerinage en Terre Sainte du 3 au 14 novembre. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez envoyer un mail à dominique.maye.lasser@gmail.com. dominique.maye.lasser@gmail.com. Vous pouvez appeler le 06 15 28 96 10. 06 15 28 96 10. C'est la fin de cette Église Actualité. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouvel agenda de l'Église dans votre région.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com.
C'est la fin de cette émission. Merci à mes invités de l'association Foi et Lumière d'avoir répondu positivement à mon invitation. Je donne votre site internet pour les auditeurs qui souhaitent vous suivre, www.foielumiere.fr. À noter que vous êtes également présent sur Facebook. Merci à Jonathan Botello d'avoir réalisé cette émission. Si vous voulez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Et encore, merci à tous d'être venus.
Merci. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.